Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue à En toute bonne foi. Nous recevons cette semaine Marie-Bernadette Blanc, fondatrice des Chapelles Vivantes, qui est un mouvement, un groupe de priants pour les militaires et leurs familles. Bonjour madame.
Bonjour madame.
Les Chapelles Vivantes ont pour mission de porter leur souffle sur toute la France et sur tous les soldats. Vous nous présentez aujourd'hui ce mouvement qui est né après une tragédie et qui est source de grand réconfort pour de très nombreuses familles maintenant. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce mouvement, s'il vous plaît?
Bien sûr. En fait, c'est un mouvement de prière,
oui.
Totalement gratuit. Ma fille devait épouser un soldat qui est mort en Afghanistan.
Oui.
Il s'appelait Gabriel, 23 ans. Il était dans un commando parachutiste et il se trouve qu'il était en Afghanistan, tout près de l'ennemi. Il avait 50 kilos de radio sur le dos ce 27 septembre 2009. Et à un moment donné, à 3 heures du matin, donc ils étaient quatre avec son chef d'équipe et deux autres compagnons. Ils vont pour rentrer et il y avait... un torrent dans le bas de... Bon, il y a beaucoup de montagnes en Afghanistan.
Oui.
Et d'un seul coup, un orage énorme frappe. Et ses trois compagnons descendent le premier versant, remontent. Et lui se trouve d'un seul coup avec des flots tumultueux qui charrient des roches. Lui qui était un excellent nageur. Donc, il plonge pensant s'en sortir, pensant
oui.
aller sur l'autre versant. Et c'est là où il est pris. Il avait 50 kilos sur le dos. Donc, il ne pouvait pas réagir. Son chef d'équipe qui remontait l'autre versant voit ça. Il se jette à l'eau pour le sauver. Il meurt avec lui. Donc, ça a été absolument terrible. Il était à 6 mois d'épouser ma fille. Donc, grand drame. À partir de là, on sait très bien que l'armée, quand il y a des morts, et c'est très important, il y a 2-3 jours où on leur rend honneur
oui.
avec des célébrations à la fois religieuses mais aussi militaires. Il ne faut pas oublier que tous ces jeunes, tous ces soldats sont des fils et des filles de la nation qui donnent leur vie pour, malheureusement, un grand nombre pour la France. Et c'est notre devoir de ne pas les oublier et de continuer. Donc, ensuite, on a eu rendez-vous à l'Institut médico-légal à Paris pour reconnaître les corps. Et l'armée nous a emmenés avec un bus sur le lieu de régiment qui se trouvait à l'époque à Dieuze, dans l'est de la France. Puis ils ont déménagé après sur Bordeaux. Et on arrive à 23 heures et c'est un moment tout à fait poignant dont je me rappelle très très bien. Ma fille me dit « Maman, tu vas aller prier
oui. ».
Et c'est vrai que quand il y a des morts, en fait, ne nous reposons pas, c'est l'heure de la prière. Il faut pouvoir les aider à s'élever. Et donc, un soldat me conduit par tous les méandres des ruelles du régiment pour arriver à minuit dans la chapelle ardente où il y avait les deux cercueils. Ce qui m'a déjà frappé, c'est qu'à côté de chaque cercueil, toutes les demi-heures, il y avait deux jeunes soldats, un à côté de chaque cercueil, qui rendaient honneur pendant une demi-heure totalement immobile.
En saluant le défunt.
Voilà, tout à fait. Et je suis restée prier jusqu'à 6 heures du matin. Je pleurais, je priais, je pleurais, je priais. Et j'ai vu donc 12 descendre de soldats. Et au fil de la nuit, j'ai été extrêmement frappée d'une part par leur jeunesse. Au fond de mon cœur, je disais, Seigneur, mais ce sont des enfants.
Oui.
Et mon cœur était de plus en plus compressé jusqu'à, au milieu de la nuit, recevoir un cri du ciel
mmh.
avec une puissance qui m'a bouleversée, qui était à la fois de colère et de souffrance. Ils donnent leur vie et personne ne prie pour eux. C'était vraiment très poignant. Et à 6 heures, je suis allée devant le tabernacle et j'ai dit à Jésus, « Seigneur, je ne suis rien dans l'armée. Montre-moi ce que tu attends de moi et avec ta grâce, je le ferai. » Ensuite, j'essaie d'avoir rendez-vous avec l'aumônier chef Terre de France, qui à l'époque était le père Blaise Rebautier, et qui me reçoit, donc tout ça a été donc en septembre, je suis reçue en décembre. Pendant 2 heures, on discute, il écoute tout ça et il discerne, il me dit « Bon, on va monter un groupe de prière pour nos soldats, c'est vous qui préparez le texte, je veux que ça ne soit jamais la même chose, par contre toujours autour d'un chapelet,
oui.
Et je validerai ou vous demanderai de modifier. » Voilà, voilà d'où la naissance d'abord du groupe de prière qui a commencé en février 2010 dans la chapelle attenante au diocèse des armées françaises, où sont également les sœurs du Bon Secours qui nous ont beaucoup appuyées. Souvent, elles déposaient le Saint-Sacrement pour que je puisse prier une heure avant. Et c'était effectivement très important pour préparer cette animation. Car moi-même, je n'aurais jamais imaginé, quand j'ai eu cette demande du Christ, j'ai dit, mais Seigneur, ça va être très lourd, parce que c'est des histoires de vie et de mort, bien souvent. Mmh. Et en fait, je peux vous garantir que du premier jour, la première fois où j'ai animé une chapelle vivante, j'ai eu une joie intérieure intense, et au contraire, presque une légèreté. C'est-à-dire que dès l'instant où on s'occupe dans la vie, ou de frères ou sœurs qui souffrent, etc., eh bien, on a presque des consolations intérieures. Voilà, ça,
Il s'est écoulé seulement 5 mois entre le décès de votre gendre et la création de ce mouvement.
Tout à fait. Parce
c'était une vraie volonté du ciel pour que ça aille aussi vite.
Alors, je peux vous dire oui, parce que moi-même, tant que je n'ai pas eu rencontré le père Blaise Rebautier, il s'est passé une chose incroyable. J'étais harcelée. Soit j'ouvrais un journal, je tombais sur une histoire du soldat. Je prenais le train, il y avait un soldat qui s'asseyait à côté de moi. Mais c'était incroyable, quotidien. Et donc, je n'avais qu'une hâte, c'était de rencontrer quelqu'un des armées pour pouvoir essayer de comprendre ce qui m'était demandé et si c'était possible.
Oui.
Donc, voilà, je pense qu'il y avait une urgence à répondre. Et le père Blaise Rebautier m'a dit, OK, on démarre en février. Voilà, c'était la première chose.
Alors, comment est-ce que ça démarre ?
Alors, ça démarre très, très simplement. Au début, on était peut-être 2-3 laïcs avec les religieuses qui étaient disponibles. Donc, c'était des tout petits groupes de 10 personnes, 12 personnes, c'était variant, dans cette chapelle attenante au diocèse des armées, où d'ailleurs les padrés enregistrent leurs chants qu'on trouve sur les vidéos.
Oui.
Donc, c'était à cet endroit qui est une très belle église d'ailleurs. Ensuite, il a fallu attendre 2016, donc déjà 7 ans passent.
Oui.
Le père Rebautier, entre-temps, devient recteur des Invalides. Et puis ensuite, il est nommé sur d'autres opérations sur Toulon. Et du coup, c'est le père Xavier Snoeck qui va prendre le relais. Qui
curé de Notre-Dame de Lourdes à Paris.
Absolument, dans le 20e, oui. Métropole-Porte. Mmh. Et qui connaissait très bien le père Blaise Rebautier. Et c'est lui qui va prendre le relais, entre guillemets, relire tous mes textes, c'est-à-dire être en quelque sorte le directeur spirituel de ces chapelles vivantes.
Alors, comment donc, tout ce que vous écrivez est relu par le père Snoeck.
Absolument. Voilà.
Validé.
Complètement validé. Mmh. C'est-à-dire que ce mouvement de prière est vraiment en Église. Ça,
oui.
Il est légitimé. C'est vraiment important de le dire. Donc, personne ne peut croire que c'est un caprice. Pas du tout, pas du tout. Ensuite, ce que je peux dire, c'est que les chapelles vivantes sont nées plus tard. On était d'abord un groupe de prière qui a duré à peu près 7 ans. Et au bout de 7 ans, je suis appelée à intervenir dans une assemblée environ de 150 personnes de l'association Les Témoins de l'Amour et de l'Espérance pour parler justement de mon initiative.
Oui.
Et c'est là où j'expose tout ça. Et à la fin de mon exposé, je suis très étonnée. Il y a environ une dizaine de personnes qui se lèvent et qui disent « Mais nous aussi, on veut ça dans nos paroisses !» Alors ça, c'est une belle surprise. Et du coup, d'ailleurs, juste après avoir prié aussi Sainte-Jeanne d'Arc, du coup, on se retrouve tous, avant de se quitter de ce petit séminaire, et on décide de baptiser ce petit mouvement naissant « Chapelle vivante ». Donc, ces chapelles vivantes donc, ont 10 ans d'existence, puisque c'était en mai 2016, et là on arrive, ça fait 10 ans. Suite à ça, on a vu effectivement un certain nombre de paroisses répondre. Alors déjà, je peux citer au moins à Paris, Donc, Notre-Dame de Lourdes, bien sûr, avec le oui. père Xavier Snoeck, mais également Saint-Louis d'Antin.
J'ai vu ça sur Internet, oui.
À Saint-Louis d'Antin, à côté de Saint-Lazare, où là, ils sont des fois assez nombreux, ça peut aller jusqu'à 40 personnes. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils partent ensuite avec les feuillets du déroulé de prière et ils peuvent continuer de prier et faire prier d'autres. Et...
Alors, qui sont ces personnes qui vont prier? Vous allez me répondre juste après la pause.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Regardez. Alors, qui sont ces personnes qui assistent et prient?
Alors, ils sont les plus divers possibles. J'ai envie de dire, c'est le tout venant.
D'accord, ce ne sont pas des familles de militaires?
Pas forcément. Il y en a, bien sûr. Oui. Il y en a, notamment des fois dans certaines paroisses qui sont plus ou moins proches de militaires. Mais c'est vraiment du tout venant, des gens qui découvrent, qui se disent « mais oui, il faut prier pour eux ». Et l'objectif d'ailleurs des chapelles vivantes, c'est aussi de se développer. En fait, et c'est très simple pour se développer, il suffit d'avoir le texte, donc de se signaler à une adresse mail que je donnerai à la fin
Alors,
de cette émission.
Alors donnez-la nous tout de suite et on la redonnera à la fin.
Alors c'est très simple, c'est chapelles vivantes au pluriel, et ça se touche, @gmail.com.
Donc, chapelles vivantes au pluriel, @gmail.com.
Voilà, et sans point ni tiré entre chapelles et vivantes.
Oui,
voilà.
Chapelles vivantes tout attachées. Voilà. Et donc si on écrit... Si on vous écrit à cette adresse mail, qu'est-ce que nous recevons?
Eh bien, vous recevez le comment faire, c'est-à-dire on avait monté une petite affichette où on exposait, donc il faut déjà l'accord du curé de la paroisse.
Oui, bien sûr, toujours demandé.
Voilà, et à partir de là, les textes sont envoyés soit la veille du premier du mois, soit le premier du mois. Donc la personne a le temps d'en prendre connaissance.
Alors attendez, c'est le premier jour du mois, le premier du mois, c'est ce jour-là où vous êtes tous en communion?
En fait, chaque paroisse décide du jour pendant le mois.
Très bien.
Ou effectivement, selon les plannings des uns et des autres. Donc, c'est très souple. Chacun choisit l'heure et le jour qui convient le plus à la paroisse.
Mais le premier du mois, on reçoit la méditation.
Ce qui permet aux personnes déjà de découvrir, de voir comment ils vont faire. C'est toujours autour d'un chapelet, mais avec... Je suis toujours, ce que m'avait dit le père Robotier, jamais la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des lignes directrices, des thèmes directeurs, ça peut être une liturgie, ça peut être à partir d'un saint, et toute une harmonie avec les mystères choisis, qui peuvent être les mystères du rosaire, soit les joyeux, soit les lumineux, soit les douloureux, soit les glorieux. Et comme ces textes sont transmis tous les mois, 11 mois par an, sauf au mois d'août, on a le temps de faire 3 à 4 fois chaque mystère. Et donc, à partir de ces mystères, il y a une ligne, on doit être en harmonie avec les bribes de vie, par exemple, des saints. Tous les mois d'octobre, les mois de mai, c'est avec la Vierge Marie où on rappelle un certain nombre d'apparitions qui sont des fois totalement oubliées. Dieu sait qu'il y en a eu en France. Oui. Et donc, ça a aussi un rôle d'évangélisation. Et aussi, parfois c'est avec un aumônier militaire, parfois c'est avec des prêtres qui ont aussi vécu sous la Révolution. Parfois c'est un peu d'histoire divine de la France et aussi l'histoire des aumôniers militaires. Enfin, c'est vraiment assez varié et j'ai des retours très positifs. À chaque fois, on me dit « Ah, mais super, on apprend des choses, ça nous nourrit, ça nous donne envie d'en savoir plus. » Je mets toujours les sources d'ailleurs. Je pars du principe que je ne connais rien, donc à partir d'une inspiration, je vais chercher dans les livres. Et donc, je sais que ce que je dis ne vient pas de moi. Voilà, ça c'est très important.
Je recevais la semaine dernière le père Lallemand pour son livre Padré, que je vous ai montré tout à l'heure. Je ne doute pas que vous en servirez comme support.
Absolument, d'autant que... j'ai déjà préparé des chapelles vivantes avec d'autres aumôniers militaires, et notamment Charles de Foucault, qui en fut à un moment donné, mais bien d'autres. Et il est évident que je ferai une chapelle avec Padré du Père Lallemand, car c'est complètement sur notre sujet. Et dans les chapelles vivantes aussi, donc toutes nos intentions de prière vont pour nos soldats, mais on a élargi avec les chapelles vivantes pour tous les corps d'armée de France, c'est-à-dire les gendarmes, les pompiers, les policiers, etc., qui œuvrent tous pour nous défendre,
oui,
et qui, de plus en plus, vivent vraiment des tourmentes. On ne peut pas l'ignorer, donc c'est systématique dans nos intentions. Intention à la fois pour leur propre protection, pour la protection des familles, mais aussi pour leur vie spirituelle, pour leur réveil spirituel, et on prie aussi pour les aumôniers militaires. Donc, et on prie pour la France, pour le réveil de la France, pour que la France redevienne fille aînée de l'Église. Et c'est pourquoi, quelquefois, c'est sur la vie divine de la France, les chapelles vivantes.
Alors, comment s'appellent ces petits groupes de prière ?
Alors, il y a eu une autre phase.
Oui.
Là, c'était chapelle vivante. Alors, les chapelles vivantes, bon, selon les curés qui viennent, selon leur sensibilité, selon les plannings des paroisses, il y a eu quelques chapelles vivantes qui ont disparu parce que le prêtre était plus orienté vers telle ou telle sensibilité. Hein. Mmh. Donc, on a toujours eu une douzaine ou une dizaine de chapelles vivantes hein, qui ont fonctionné. Mais à partir du moment où il y a eu le Covid, où il était dit qu'il ne fallait pas se rassembler, on a proposé l'existence de petits foyers de lumière. Et là, n'importe qui peut en faire partie. Il suffit d'avoir Internet, de se signaler, et on envoie le texte, le même texte que les chapelles vivantes, qui ont toujours une introduction qui ne fait pas partie de la prière, mais qui est déjà pour mieux rentrer dans ce qui va suivre. Et à partir de cette introduction, les gens peuvent lire et prier. Ils peuvent prier soit seuls. Il y a des personnes qui prient seules. Il y en a d'autres.
Oui, donc en fait, si je vous comprends bien, soit nous montons en groupe, soit nous le faisons seuls à la maison ou à l'église.
Voilà, le jour qui convient, l'heure qui convient, et avec les personnes, soit des amis. Ça peut être, je sais qu'il y a des personnes qui ont monté des petits groupes de 10 personnes qui prient. Donc aujourd'hui, c'est en train de se développer.
Mais ça ne se développe pas. Ce n'est pas une association.
Pas du tout. C'est un mouvement de prière totalement gratuit,
oui,
et qui se génère, qui essaime tout seul, j'ai envie de dire.
Oui.
Je suis incapable de vous dire à l'heure actuelle combien il y en a. Moi, je sais que j'en vois déjà par rapport aux bases quand on a commencé à peu près à 120 personnes.
Oui.
Mais je sais que depuis, il y a eu des ramifications, mais ce serait trop compliqué, je n'ai pas cherché à savoir maintenant.
En fait, ça ne vous appartient pas.
Ça ne m'appartient absolument pas. C'est le Seigneur qui sait. C'est le Seigneur.
Oui.
Voilà.
Oui.
Et donc, et je pense que plus on va être nombreux, il faut savoir aussi que ceux qui animent les chapelles vivantes sont des personnes généralement très spirituelles.
Oui.
J'ai vraiment des perles en Dieu dans ce mouvement. Et ça, je tiens à le dire parce que sans ces personnes, on n'aurait pas pu se développer. Et c'est très précieux. Il faut simplement avoir le cœur d'avoir envie de prier pour la France, pour notre patrie et pour ceux qui défendent notre patrie. À partir de là, si on prie avec le cœur, on peut devenir une vraie bombe qui fait rejaillir des bénédictions du ciel et qui écarte les ténèbres. C'est vraiment l'objectif des chapelles vivantes, c'est de se déployer naturellement auprès de personnes qui ont l'habitude de prier. Car plus on prie quotidiennement, plus la prière qu'on fait est forte. Ça, j'en ai 1000 exemples. Et c'est pourquoi j'appelle ceux qui sont fidèles à ne pas avoir peur de vouloir se rallier à ce mouvement de prière qui est en quelque sorte à la fois invisible, mais qui peut être très puissant par la ferveur et le nombre.
Vous avez un projet, faire éditer quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît ?
Bien sûr. J'ai, à partir de 7 veillées que nous avons déjà organisées, les chapelles vivantes, des veillées avec nos aumôniers militaires, avec 7 aumôniers militaires, donc un livre de prière pour la France et pour tous ceux qui nous défendent, qui demandent simplement à trouver un éditeur pour sortir, qui sortira en petit format de poche, je l'espère, et qui sera donc facile. Et il faut savoir que moi, je sors complètement du fait de vouloir gagner de l'argent avec ça. Je veux dire, le retour d'argent de ce livre sera pour l'éditeur et pour faire dire des messes,
oui,
pour ceux qui sont tombés pour la France. Car si on fait dire des messes pour des personnes qui sont décédées, on sait très bien que eux, par leurs prières, vont accompagner tous nos soldats, tous ceux qui luttent pour la paix en France, à l'intérieur du pays, mais aussi à l'extérieur. Et donc, c'est une bombe d'amour. Et c'est pourquoi je veux réserver tout ça à l'œuvre. Et c'est pourquoi je cherche un éditeur qui le comprenne, qui bien sûr gagnera sur ses livres, mais le reste, ça sera vraiment pour la cause.
Et vous ferez dire ces messes par un aumônier militaire en particulier ? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à...
Ça peut être... moi, je pense que selon les paroisses qui vont vouloir bien accepter de vendre, ça peut être un retour sur les paroisses qui prient avec les personnes.
Ah oui, là où un groupe existe déjà.
Mais ça peut être aussi dans des abbayes. Ça peut être aussi chez le Père Snoek, qui est le directeur spirituel des chapelles vivantes. D'ailleurs, il a déjà fait des messes, puisqu'on s'est déjà mis d'accord pour que quand il y a des fêtes importantes, par exemple Sainte-Barbe, Sainte-Jeanne d'Arc, Saint-Michel-Archange, pour ces fêtes-là, il y a à Notre-Dame-de-Lourdes une messe pour... Tous nos militaires, quelles que soient les forces armées en question. Donc, je pense que ça, il faut que ça se développe. On ne prie pas assez pour nos morts qui sont plus vivants que nous et qui attendent un retour.
Vous parliez de Saint-Louis d'Antin tout à l'heure. Il y a un groupe là-bas.
Oui.
Et qui se réunit tous les mois.
Tous les mois, tous les troisièmes jeudis du mois.
Oui.
Après la messe de 19h, le Saint-Christin ferme pile à l'heure parce qu'il y a une vie de famille, et ça fait juste une heure. La prière dure normalement 1h15, environ 1h15. Donc, mais comme les gens partent avec les papiers, peuvent terminer
chez eux.
Ouais. Parce qu'il y a toujours, dans ces contenus, c'est toujours autour d'un chapelet, mais il y a un petit développement. Par exemple, si c'est la vie d'un saint, je vais rechercher dans les livres les anecdotes qui vont être totalement en harmonie avec le mystère en question et aussi avec l'intention et le chant qui suit. Donc, bien sûr, ces lectures prennent un certain temps, mais du coup, on rentre vraiment dans la vie du saint en question ou du prêtre en question. Et je note toujours la source, donc les personnes peuvent après, s'ils en ont envie, c'est le cas d'un certain nombre, acheter le livre pour aller plus loin dans la connaissance. Car il y a besoin aussi de... Nous avons tellement de personnes qui sont des héros dans notre pays et nous en connaissons si peu. Et les chapelles vivantes font redécouvrir un certain nombre de figures magnifiques et qui nous permettent de nous élever davantage pour mieux penser à toutes ces vertus chrétiennes nobles qui sont si importantes et parfois un peu oubliées ou délaissées dans l'époque d'aujourd'hui.
Est-ce que vous pouvez nous citer d'autres paroisses ou comme Saint-Louis d'Antin ?
Tout à fait. Alors, nous avons Notre-Dame-du-Lourdes à Paris, il y en a trois. Notre-Dame-du-Lourdes, Saint-Louis d'Antin et Sainte-Élisabeth de Hongrie à côté de la République.
Où était le Père Snoek avant ?
Voilà, tout à fait. Donc, on voit bien sa trace.
Oui.
En banlieue, nous en avons deux dans le 78. Donc, le Chenet avec la paroisse Saint-Antoine.
Oui.
Le Vésinet, l'église Sainte-Marguerite-Marie. Et la troisième, en Seine-Saint-Denis, par une femme qui a lancé ça, qui est une vraie perle, je peux dire son nom, Annie Fleury, et à l'église Saint-Louis. Alors, en province, nous en avons deux. Une qu'anime Elisabeth Maison, qui est vraiment un guerrier du ciel, au Mélan, à côté de Grenoble, dans le département 38, à l'église Saint-Victor, et une autre à Vernon, dans le département 27, à la collégiale Saint-Louis. Pour l'instant, voilà. Alors, moi, je suis très ouverte à ce que d'autres personnes disent, moi, je veux bien animer, parce qu'animer une chapelle, il n'y a rien de plus simple, puisqu'on apporte tout sur plateau. Il n'y a que, se présenter devant l'Assemblée, parce qu'il y a toujours besoin d'un chef d'orchestre quand on prie. Et, oui. Et puis, bon, après, si la personne m'envoie un mail, moi, je peux l'appeler. Si elle propose à sa paroisse et que ça marche, oui, je la soutiendrai, bien sûr.
Alors, on va redonner l'adresse, chapellevivante@gmail.com.
C'est ça, tout à fait.
Très bien. Écoutez, Marie Bernadette, merci beaucoup. Nous recevions aujourd'hui Marie Bernadette Blanc pour les Chapelles Vivantes. Je vous remercie parce que pour nous, famille de militaires, c'est un grand soutien, une communion indispensable pour entourer nos proches. Et j'espère que suite à cette émission, de nombreux groupes vont encore se créer à travers toute la France parce que nous sommes quand même dans une période d'instabilité. Nos soldats seront peut-être amenés à partir prochainement. Mais voilà, gardons-les dans notre cœur, dans nos prières. Merci beaucoup.
C'est avec plaisir et merci de m'avoir reçu, car plus on va être nombreux à s'associer à ces prières, et on empêchera beaucoup d'horreurs. Ça, j'en suis convaincue.
Merci, madame.
Merci.